Bonjour, aujourd'hui nous accueillons le collectif Oshidatsu 2250 et autour de nous des représentants du collectif qui mènent un travail d'une grande ampleur qui a commencé depuis longtemps. Donc nous avons autour de la table Benoît Robin, Mutos pour le collectif. Nous avons Lisa Lescornet-Robin, Lison pour le collectif. Et nous avons Sylvie Martin, Ciliane, au sein du collectif, qui en fait englobe un nombre de personnes nettement plus important. Mais je crois qu'on va commencer tout de suite par demander à Benoît Mutos-Robin de nous expliquer la nature du projet, peut-être quelques petits éléments historiques et aussi le type de réalisation qui sont produites par le groupe.
Eh bien, le projet Oshikaze a pour objectif d'écrire un univers de science-fiction du même nom, Oshikaze 2250. C'est un univers de space opéra qui se base sur une histoire alternative qui va des années 80, où on n'arrête pas la conquête de l'espace, mais on la continue, jusqu'à l'année 2250, où une dizaine d'espèces intelligentes se partagent un grand nombre de planètes habitées sur beaucoup de systèmes explorés. Donc cet univers est très vaste et nous le développons de manière collective, donc avec plusieurs auteurs qui se répondent les uns aux autres et qui rebondissent les uns sur ce que les autres écrivent.
Alors le collectif a des activités qui sont très visibles sur Internet et je dois dire qu'animer une table ronde avec des représentants de ce groupe est particulièrement agréable parce qu'une des premières choses que j'ai trouvées sur le site de Oshidatsu, c'est des forums où cette table ronde était abondamment préparée, commentée, discutée par tous les participants qui avaient déjà réfléchi à tous les aspects dont on pouvait discuter, donc on ne va pas s'en priver ici. Il y a plein de choses intéressantes à dire, mais sur le site que je vous invite vraiment à visiter, on a d'une part un wiki qui donne accès à une sorte de bible qui décrit tout un tas d'éléments de cet univers avec, on va accueillir un quatrième participant du groupe Oshidatsu, c'est Anthony Boulanger qui nous rejoint, donc c'est Kélandros pour Oshidatsu. Je disais, on a un wiki sur lequel j'ai lu, je crois, 127 articles différents qui détaillent tout un tas d'aspects de cet univers très riche qui a été alimenté au fil des années par tout un tas de contributeurs. Je crois qu'il y a des jeux de rôle, des jeux de plateau, il y a de l'infographie, il y a des dessins, il y a des textes. Un univers très fouillé, très détaillé. On va peut-être demander déjà à chacun des participants ce qu'il y apporte, ce qu'il a envie d'y mettre et comment il joue avec l'univers. Par qui on commence? Qui veut commencer? Ciliane?
Donc moi, j'ai rejoint cet univers il y a 2 ans, sachant que c'est un univers qui a une vingtaine d'années. Et en tant que jeune auteur, ça me permettait d'avoir déjà du travail de fond qui a été fait par d'autres et de travailler en coopération au sein d'une équipe pour progresser. Et ça m'a énormément apporté de pouvoir m'intégrer en me spécialisant sur une des espèces astro-pérégrines. Et c'est-à-dire ces espèces qui se baladent dans l'espace. J'avais choisi les crines, qui sont des insectoïdes. Et j'ai grand plaisir à collaborer à cet édifice.
Alors on va continuer avec un petit mot de chacun, disons peut-être.
En fait, j'ai rejoint le projet en 1999. On a commencé, en fait, le projet stagnait un peu, donc on a commencé à élaborer un peu plus le site. Après, on a commencé par la création de l'association en 2007 pour avoir en fait une image officielle pour pouvoir participer aux conventions et pouvoir en fait officialiser plus le projet Oshikaze et lui donner plus d'ampleur. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que si on fait des jeux de rôle, des jeux de plateau, c'est quand même avoir une image de marque et un nom de société ou au moins un nom officiel qui a un statut juridique. Donc c'était le meilleur moyen, déjà par cette association, la création d'associations, de pouvoir développer cela. En fait, j'avais déjà participé sur l'événementiel en faisant des soirées professionnelles et j'apporte en fait ma petite pierre à l'édifice pour pouvoir préparer les conventions, les préparer, faire des stands, avoir une image pour développer l'image d'Oshikazi.
Même question pour Kélangros.
J'ai un mot d'intervention sur le forum de l'avenir qui est beaucoup plus restreint que ce que peuvent avoir beaucoup de plans. Je dois être un des plus jeunes et sûrement un des plus naïfs, on va dire, parce que je maîtrise mal l'univers, mais d'un autre côté, ça me permet du coup d'avoir un regard différent et d'avoir une approche des différentes interactions entre espèces qui n'est pas forcément la même que certains auteurs, et de proposer des choses qui sont souvent invalidées par les informations d'autres auteurs, mais qui peuvent des fois produire des nouvelles pistes assez. Du coup, ça me permet aussi de travailler dans l'univers de Space Opera, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Et avec cet entourage qui est vraiment favorable à l'imaginaire.
Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses. Oui, je vais demander à Mutos, hein, parce que s'il est un peu l'âme du projet et un des pères fondateurs qui contribue au collectif actuel, il a aussi des interventions personnelles et sans doute un rôle un peu particulier au sein de l'association, donc peut-être nous en dire un mot.
Oui, donc j'essaye de remplir un rôle de coordination et je dirais de faire en sorte que les choses se passent bien et que le collectif fonctionne en collectif avec justement ces échanges entre auteurs, ces rebondissements entre ce que nous écrivons, que les projets arrive à déboucher, que quand quelqu'un va proposer quelque chose, on s'en saisisse et on le porte. Par exemple, le jeu de plateau, effectivement.
Par exemple, pour ce jeu de plateau, c'est un jeune animateur qui a voulu développer un jeu collaboratif pour, au sein d'endroits un peu difficiles en banlieue, pouvoir soutenir un esprit de coopération. Et donc il a permis à des jeunes autour d'un jeu de plateau de retrouver, grâce à des règles étudiées pour cela, de retrouver le sens de la coopération.
Une vidéo originale, donc il nous a fait un premier prototype, après quoi l'association s'en est saisie, a fait réaliser un deuxième prototype lors d'un stage avec une école de game design et d'art digital. Ce deuxième prototype a été présenté à Japan Expo où on a pu faire venir les membres de l'équipe qui avait travaillé dessus. Et au final, un troisième prototype a été réalisé qu'on a sur le stand.
Alors effectivement, ça met en valeur un des aspects intéressants de votre collaboration, c'est que vous avez réussi à faire se rejoindre des compétences très très différentes et très complémentaires. Vous avez des informaticiens, vous avez des spécialistes de la gestion et de la communication, vous avez des graphistes, vous avez des designers, vous avez des auteurs. C'est assez impressionnant d'avoir réuni toutes ces compétences-là. Et j'avais envie de revenir sur quelque chose que disait Sylvia tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui monte, peut-être lié à Internet. En tout cas, on en parle beaucoup ici. Il y a eu pas mal de tables rondes avec Cyclix, par exemple, qui est aussi un collectif. Et on a l'impression, d'une part, qu'on a peut-être de plus en plus besoin de collectifs dans une société qui peut-être nous isole et nous individualise beaucoup. Et d'autre part, Siem disait, j'étais heureuse de rejoindre une équipe pour progresser. Et j'aimerais comprendre que vous attendez de l'équipe comme retour, comment se fait cette progression? Est-ce que collectivement, vous faites des suggestions les uns aux autres? J'y reviendrai sur cet aspect parce que moi, en tant qu'auteur, je m'interroge. Je pense que c'est pareil pour les graphistes et quel que soit l'angle social qu'on le prend, y compris l'angle technique de l'informatique, il peut interroger de la même manière. Alors, quel type de progression, quel type de retour tu attends? Est-ce que tu attends que simplement qu'on te fournisse des éléments de départ? C'est ce que disait Kélangros tout à l'heure On a un univers clé en main avec lequel on peut jouer. C'est déjà un point de départ enrichissant. Ou est-ce qu'il y a d'autres types de retours sur ta production à toi qui te sont utiles?
En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça se passe en coulisses, puisqu'on va jusqu'à des recueils de nouvelles, et donc de voir comment on travaille en termes de relecture, comment on progresse avec des... avoir des retours parfois critiques. Parfois, on m'a dit, ton combat spatial, il n'est pas assez étoffé. Donc, j'ai eu à la rescousse quelqu'un qui m'a développé ce combat spatial pour aller beaucoup plus loin en termes d'action. Et c'est toujours enrichissant de travailler avec d'autres. Et on fait non seulement une progression au sein d'une nouvelle, mais aussi par des interconnexions entre nouvelles qui permettent de relier... un moment où j'avais besoin d'un type de fauve sur une certaine planète, Benoît a fait le lien et m'a dit que dans une autre nouvelle, il y avait déjà ce type de fauve. Et donc on a pu connecter les deux nouvelles à ce niveau. Et c'était très, très intéressant. C'est un peu... Vouloir créer un space opéra tout seul, il faut vraiment être très fort. Et là, c'est un tremplin, c'est un avant-goût de quelque chose d'assez vaste.
Est-ce que l'univers devient plus vrai? Est-ce que vous en rêvez la nuit parce qu'il est partagé par d'autres?
Et je dirais pour cela qu'on essaye de garder un équilibre entre ce qui existe déjà, ce qui a été écrit, ce qui est fixé, et ce qui est en blanc, ce que les auteurs vont pouvoir développer, vont pouvoir, pouvoir imaginer à leur gré. Sachant que, comme l'univers est très vaste, c'est un univers de science opéra, hein, donc par définition, c'est énorme. Des centaines de systèmes stellaires, des centaines de planètes, donc voilà, il y a beaucoup de choses à écrire et beaucoup plus qu'on pourra en écrire en quelques années, même à beaucoup.
Oui, donc il est tellement vaste qu'il est potentiellement illimité. C'était une des questions que je me posais aussi, c'est est-ce que cet univers ne vous enferme pas d'une certaine manière en ayant défini un certain nombre de règles? Est-ce qu'il arrive que l'un d'entre vous ait envie de proposer une image ou un scénario ou un récit qui n'accroche pas dans son principe? Je ne sais pas, l'un d'entre vous a envie de jouer avec l'idée de télépathie ou d'immortalité ou je ne sais pas, et ça n'aurait pas sa place dans l'univers. Est-ce que tout peut trouver sa place dans votre univers?
J'étais très content parce que je suis un des plus récents sur toi. Oui, ça donne envie. Alors, il y a des règles qui existent, il y a des particularités, des paramètres qui sont immuables, enfin qui m'apparaissent comme tels, mais ça donne justement envie d'apporter une pierre nouvelle et de réussir à l'intégrer dans cet univers. Je veux dire, c'est visible, c'est limité, oui, ça l'est. Je veux dire, il y a des espèces qui existent, rien nous empêche, et Benoît n'a jamais émis cette volonté de créer de nouvelles créatures. D'ailleurs, c'est arrivé dans la première nouvelle que j'ai proposée, de faire apparaître des nouvelles règles, justement, pour pouvoir augmenter un peu plus la potentialité de cette fille.
Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été développées antérieurement et sur lesquelles, je dirais, on peu difficilement revenir, vu qu'il y a des nouvelles qui s'en inspirent, il y a des choses dans le wiki qui sont déjà écrites, mais c'est tellement vaste, là encore, qu'il y a beaucoup de place pour en imaginer d'autres. Donc oui, c'est potentiellement illimité en gardant à l'esprit certaines règles.
Et pour moi, c'est tout le jeu de la contrainte créative, en fait, de se donner des contraintes de départ pour faire surgir l'imaginaire grâce à ces contraintes. Au lieu d'inventer dans le vide intersidéral, on a déjà des points de repère et ça nous donne de l'inspiration.
Et en fait, grâce à l'échange en fait, sur le forum, au moment des relectures, au moment de la réécriture, par exemple, de certains passages, suite en fait, à des commentaires faits entre auteurs, ça permet en fait, d'enrichir notre style et de pouvoir apprendre d'autres manières de pouvoir écrire, de se conformer. Ça aide aussi énormément.
Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris, mais parmi vos multiples activités, est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi éditeur? Est-ce que c'est vous qui produisez vos propres recueils? Est-ce qu'il vous arrive de les soumettre à des éditeurs? Est-ce que vous le faites en tant que collectif ou individuellement? Vos relations, c'est un peu la question avec vos relations avec le reste du monde professionnel, artistique. Est-ce que vous fonctionnez en autarcie ou pas?
En fait, l'idée c'est que tout ça a démarré comme vraiment un loisir, hein. C'était du jeu de rôle, on a commencé à écrire des choses, on l'a mis sur internet, puis un jour on a eu envie de sortir du papier, on a eu envie d'avoir vraiment nos textes, mais il fallait pour ça avoir une certaine qualité, il fallait pour ça avoir un certain professionnalisme qu'on n'avait pas. En termes de compétences, tout simplement, on a mis du temps à l'acquérir, et bon, petit à petit, on s'en approche. Maintenant, pour l'instant, on est une association, on fonctionne sur une communauté de création, bénévole, on voudrait effectivement, dans l'avenir, fonctionner comme une véritable maison d'édition. Maintenant, on a encore du boulot à faire. Mais c'est motivant. Là aussi, c'est motivant parce que écrire un recueil de nouvelles en partant de rien, on a appris les règles de la mise en page, on a appris comment on faisait un livre, comment on l'a vu de nos mains, je dirais, entre le clavier et le papier. On l'a vu. Et c'est une expérience qui est fabuleuse. Donc à partir de ça, cette expérience, le fait de l'avoir partagée tous ensemble, d'avoir aussi fait les relectures ensemble sur un recueil entre les différents auteurs, voilà, ça soude un groupe, ça crée une dynamique. Et ça donne une expérience qui est toujours fabuleuse.
Il faut savoir aussi que dans le monde de l'édition, si on veut éditer en fait des recueils, pour passer par certains éditeurs ou certains distributeurs, il faut déjà avoir un certain nombre de tirages qu'on n'a pas encore atteint, mais justement c'est un de nos objectifs de pouvoir devenir une maison d'édition à part entière et pouvoir atteindre des distributeurs plus connus.
Et puis j'imagine que vous faites de l'édition numérique aussi, ça paraît logique vu le mode de fonctionnement et l'infrastructure que vous avez. Moi, je voulais demander aussi, je me demandais comment on découvre et comment on rejoint votre collectif, et je demanderais bien à Anthony, puisqu'il est le dernier arrivé, comment tu as fait connaissance avec Oshidatsu, tu as rencontré des gens dans un endroit comme ici, tu es tombé sur le site par hasard, comment ça marche?
Benoît, exactement, c'est sur un festival que j'ai rencontré Benoît et son équipe qui m'ont initié à une grande espèce qui était présente déjà dans l'univers et de Oshidatsu. Et donc, de fil en aiguille, on a discuté, savoir quelle était leur attente, ils m'ont présenté le jeu de rôle, le jeu de plateau qui existe et le fait qu'ils attendaient des textes. ça collait bien avec mon envie d'écrire l'esprit souverain, et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure de l'écriture collective, et c'est comme ça que j'ai proposé le premier texte, puis le deuxième qui va arriver, et du coup je suis assez dans le projet.
Et vous êtes tous des joueurs de jeux de rôle ou de jeux de plateau, est-ce que c'est une dimension qui vous intéresse tous? Lisons par exemple, ou Sylviane.
Ça dépend en fait, chacun a ses goûts, donc certains ne sont pas rôlistes, d'autres le sont plus. Certains sont débutants rôlistes, d'autres rôlistes avertis, c'est variable. Et à tous les niveaux, comme dans une société conventionnelle, vous avez tout type de personnes. Et justement, c'est cette multiplicité de profils qui permet en fait d'apporter la diversité au projet.
Et par exemple, moi, je pense que je vais bientôt me mettre au jeu de rôle grâce à Oshikaze, en fait, parce que j'ai commencé par l'écriture, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et ensuite, j'ai vu d'autres personnes jouer à ce jeu et pouvoir incarner les personnages dont ils allaient écrire les histoires. Donc je me suis dit, c'est peut-être un moyen de commencer le jeu de rôle dans un univers que je commençais à connaître un petit peu, même s'il est très vaste. Et justement de jouer les personnages et pour après écrire les histoires en version nouvelle.
Il faut aussi savoir que le jeu de rôle, c'est quand il y a beaucoup de roleplay, ça s'apparente beaucoup en fait au théâtre d'improvisation. Même s'il y a le maître de jeu qui donne un cadre, une sorte de règle au fur et à mesure, c'est vrai que en fait, dès qu'on a un petit peu d'imagination, on peut s'adapter à n'importe quel jeu de rôle.
Et également, ce qu'il faut dire au sujet de la relation entre le jeu de rôle et l'écriture dans Oshikaze, c'est que le projet Oshikaze est né du jeu de rôle, il retourne au jeu de rôle là, actuellement, et la manière d'écrire, je dirais, que l'on a est quand même influencée par le jeu de rôle, le fait qu'on écrit un univers et non pas seulement des narrations, des histoires. On ne commence pas par la narration, mais on commence par l'univers, par l'environnement. Et ensuite, de l'environnement, on vient développer des histoires à l'intérieur de cet environnement. Et ça, c'est une manière d'écrire qui est très rôliste.
Mais de toute évidence, enfin moi je ne vous connais pas depuis très longtemps, mais de toute évidence, vous êtes un vrai collectif humain, et c'est amusant parce que j'ai l'impression que la complémentarité sur laquelle vous jouez, ça vous amène finalement à reconstruire une sorte de micro-société humaine très diverse. Et du coup, je me demande ce que veut ce collectif en tant que collectif, de quoi il a envie. Est-ce que vous avez envie de grossir? Est-ce que vous avez envie de passer beaucoup de temps ensemble? Parce que visiblement, vous vous connaissez personnellement en tant que vraie personne qui se font des bisous sur les joues quand ils se voient, qui ne se contentent pas de s'envoyer du virtuel. Est-ce que vous avez envie d'être de plus en plus nombreux, de contaminer le reste du monde, comme dirait Philippe Canet?
En fait, on a une plateforme virtuelle qui nous permet de nous réunir au sein d'un forum, sachant que moi j'habite en Normandie, Benoît il est plutôt en banlieue parisienne avec Lisa et Kellen Ross aussi. Et on n'aurait pas la possibilité de se voir aussi souvent qu'on voudrait sans la plateforme virtuelle. Maintenant, l'occasion de venir à des salons comme Zone Franche, c'est vraiment pour faire une synergie plus efficace en se voyant en direct. Et ça nous permet de rencontrer d'autres personnes et de leur communiquer cette passion qu'on a à développer cet univers. Et donc, il y a une interconnexion de ce qui se fait en virtuel. Ça peut être souvent de 5h à 7h du matin régulièrement que je vais croiser Mythos sur le forum et qu'on va faire avancer l'action et puis après on continue notre vie normale.
Et d'autres vont se connecter à d'autres heures.
Et puis il y a d'autres qui se connectent à d'autres heures. Bon, ça c'est un fonctionnement virtuel. Et après on a cette possibilité d'être sur les salons en fonctionnement d'humain à humain, je dirais.
C'est vrai que le créneau de Benoît, c'est plutôt le matin entre 5h et 7h. Moi, ce sera plutôt le soir entre 21h et 2h du matin. C'est variable selon normes de chacun, ce qui permet en fait aussi de faire avancer le projet et de pouvoir aussi suivre en fait l'évolution ou redonner du souffle ou des idées lorsqu'on est un entouré ou un problème de coordination.
Vous demandez si Oshikazi a pour but de contaminer le reste de l'univers. Je pense qu'un des buts du collectif, c'est non pas de contaminer, mais au moins de montrer à des productions dont le collectif est capable, de donner envie à des gens de le rejoindre et de montrer qu'il y a des textes de qualité, qu'il y a des productions de qualité qui sont ici. Et c'est aussi en permettant à des gens de s'intégrer facilement dans l'univers, parce que l'intégration est vraiment facile aussi, qu'il y a de nouvelles idées qui viennent nourrir et de nouvelles synergies qui se créent entre les membres et en interaction avec les lecteurs et les joueurs.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer que vous quittiez tous le collectif pour différentes raisons personnelles, à un moment ou à un autre, que dans le même temps, il y ait d'autres gens qui arrivent de la propriété et que ça continue sans qu'il n'y ait plus aucun d'entre vous et que ce soit l'univers d'un autre collectif? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que ça vous choquerait comme idée?
Ça serait imaginable. Ça serait imaginable.
C'est pas choquant du tout. En fait, ce serait que le prolongement par rapport au premier collectif qu'il y avait eu tout au début, lorsque en fait, la centrale, le club de jeu de rôle, ils avaient voulu créer un jeu de rôle universel. Ce serait sur la continuité. Et ce sera toujours aussi enrichissant parce qu'il y aura plus de personnalités qui apporteront d'autres pierres à l'édifice.
Donc à un moment donné, il faudra qu'une continuité qui se fasse, mais ça peut être glissant. Au final, entre deux instants T, il est parfaitement possible que plus personne de l'instant A ne soit encore à l'instant B.
C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous vivez dans l'univers actuel, vous savez qu'il va continuer le jour où vous ne serez plus là. Donc c'est ce qu'on espère pour l'univers Oshikaze qui est un peu parallèle. Et c'est un espoir qu'on a qui nous survive, oui.
Donc ça veut dire qu'il a pris tellement de substance qu'il pourrait se décliner de plein de façons auxquelles vous n'avez pas encore réfléchi. Et l'approche que vous avez constituée une bible de référence en accumulant des tas de connaissances sur les races qui peuplent votre gigantesque espace, leur apparence, leurs interactions, ça pourrait servir aussi de base à l'écriture d'un cycle de roman ou de série télévisée ou de dessin animé. Est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres modes de déclinaison au-delà du jeu de rôle, de tout ce que vous avez déjà produit? Et j'imagine que ça va dépendre de ceux qui vont vous rejoindre aussi et de leurs envies.
En fait, je pense que quand on arrive dans l'association Oshikaze, plus on met d'énergie dans cette association, plus on en retire de plaisir à créer au sein de cette association. Et donc, on a un retour sur l'investissement dans ce projet. Donc, si quelqu'un arrive avec un projet de bande dessinée, par exemple, parce qu'il est illustrateur, il peut s'emparer de l'univers, en faire une bande dessinée, et on sera ravi que ça vienne enrichir les déclinaisons de cet univers.
En fait, on ne se met pas de limite, effectivement, d'un point de vue type de déclinaison que l'on va trouver acceptable pour cet univers. Toute déclinaison est acceptable, sachant que toutes ne nous sont pas accessibles en termes de temps à passer, en termes de compétences, en termes d'argent à y investir, en termes de disponibilité des gens. Donc, c'est vraiment les envies, les possibilités qui nous sont ouvertes qui vont déterminer ce que l'on va faire ou pas.
Bon, alors je continue à imaginer des scénarios saugrenus. Imaginez que vous ayez un touriste comme moi, par exemple. Je vais explorer votre site, j'y découvre des tas de trucs qui me plaisent. je trouve des descriptions de races intéressantes, des planètes. Voilà. Puis je raconte une histoire, et puis je la signe de mon nom et je ne vous cite pas. Comment, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a un label Oshidadze que vous avez posé quelque part? Est-ce qu'il y a un processus de partage et d'échange collaboratif qu'il faut mettre en œuvre pour avoir le droit d'utiliser votre univers? Ça va devenir une vraie question quand votre univers va devenir encore plus riche qu'il n'est déjà, et il est déjà beaucoup. Comment vous réagiriez là maintenant si quelqu'un vous piquait vos races, vos créations intellectuelles?
En fait, les races ont été déposées et on a déjà des codes ISBN justement pour les livres et pour protéger en fait une partie, pour protéger nos données.
En fait, on a déposé sur l'IDDN, le système de une société qui fait du dépôt légal de contenu numérique, certaines versions des sites, des versions majeures, je dirais, qui ont marqué le développement du site et de l'encyclopédie. Et on a donc, de ce côté-là, du côté de l'association, une preuve de l'existence de l'antériorité, je dirais. Après, il est clair que les concepts eux-mêmes, on est dans du space opéra, je dirais, il y a des concepts space opéra, il y a un tas de concepts space opéra, on en a pris certains, pas tous, on les a arrangés d'une certaine manière qui est originale et qui donne à cet univers sa forme. D'autres univers ont les mêmes concepts, des concepts approchants, qui sont arrangés de manière différente et qui donnent une forme différente à cet univers. Donc, c'est sur le plan des concepts, je dirais, on s'inscrit dans une mouvance. Maintenant, sur le plan, par exemple, de reprendre des espèces très précises avec certaines descriptions très précises, des choses vraiment de manière évidente reprise de Oshikaze, ça serait plus difficile. Je ne sais pas comment on gérerait, et effectivement, il faudrait y penser.
En fait, moi j'ai assez confiance en l'être humain et je crois que le plaisir de Oshikaze, c'est de travailler ensemble. C'est pour ça que je me suis même pas posé la question. L'intérêt quand on voit ce forum-là, si on vient s'y inscrire, on s'y inscrit, on sait qu'on est accueilli pour y apporter sa touche personnelle. Et donc, moi je pense que la question se pose pas vraiment, c'est-à-dire que si on veut participer, ce serait dommage de se priver des bonnes parties de plaisir qu'on a en se retrouvant ensemble, entre nous, sur ce forum, et en dehors, en groupe, quand on fait des parties de jeux de rôle, ou quand on est sur les stands. Donc, je sais même pas si la question va se poser, en fait.
Si vous avez envie de rebondir sur une question ou une autre, allez-y, hein, vous avez un micro à attraper. Sinon, je continue mes questions saugrenues dans tous les sens, en voyant qui a envie de répondre. J'imagine, puisque vous êtes tous, chacun à votre manière, des créatifs, des initiateurs de projets et des passionnés, j'imagine que vous avez déjà eu des phases de votre vie, ou peut-être que vous le faites en même temps que vous travaillez avec Oshikaze, de travailler individuellement. Alors, est-ce que ça reste intéressant? Est-ce que c'est tellement plus génial de travailler collectivement que vous en avez perdu tout intérêt pour une démarche solitaire? Quelle est votre relation par rapport à...
En fait, je voudrais répondre sur ce point parce que j'étais enseignante de mathématiques avec beaucoup de difficultés à transmettre une passion que j'avais moi pour la matière et que je voyais bien, ça faisait un peu souffrir mes élèves. Et donc, parce que c'est vrai que je suis en train de lâcher l'enseignement pour pouvoir développer la créativité de manière plus continue, pas seulement avec Oshikaze, mais dans d'autres domaines, comme l'art thérapie ou des domaines comme ce connexe. Et en fait, ce qu'on essaye de porter au sein de l'univers Oshikaze, c'est aussi un ensemble de valeurs. C'est-à-dire que dans cet univers, il y a des conflits, il y a de l'action, mais le but, c'est que les différentes espèces qui apprennent à se connaître au sein de cet univers de space opéra, arrivent petit à petit, au-delà des conflits, à voir les possibilités de coopération entre espèces, malgré les différences évidentes qu'on a essayé d'y intégrer, sachant qu'on est des cerveaux humains, et donc on a essayé d'inventer des extraterrestres qui ont forcément une partie liée à notre cerveau d'humain, qui l'avons inventé.
De mon côté, j'écris aussi hors collectif, on va dire, et c'est, ça permet de faire de belles rencontres sur d'autres projets. Je pense qu'il y a Jean-Claude qui est dans le public, Jean-Claude Dignac qui est dans le public, donc j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler avec lui sur la dernière nouvelle qui est dans l'anthologie du festival, et c'était une autre rencontre humaine également, un apprentissage fort. Quel que soit le texte, qu'il soit travaillé à titre personnel, qu'on le garde dans son disque dur, qu'on le soumette à un éditeur, qu'on travaille en collectif, il y a toujours des expériences à faire, à acquérir, il y a toujours des enseignements à tirer, et c'est ça aussi qui fait la diversité et l'intérêt de cette passion d'écrire et de travailler avec d'autres personnes. Je ne conçois pas l'écriture comme une activité. Exactement. Donc, on est obligé de se tourner vers les autres, que ce soit les lecteurs, que ce soit les éditeurs, ou que ce soit d'autres auteurs qui nous permettent d'avancer chacun à notre façon.
Moi aussi j'écris pas forcément, j'écris pas tellement dans le Chicazier où je vais apparaître normalement dans le prochain, mais je dépense la date. C'est vrai que j'écris à côté dans un autre domaine. Bon, c'est l'écriture en solitaire pareil. Et c'est vrai qu'en fait, à la fois le projet Chicazier me permet d'enrichir aussi d'autres domaines et inversement. Donc en fait, je pense que tout être humain ou toute personne a besoin en fait d'un travail à la fois en solitaire, d'un travail en collectif. Et je pense que selon les personnes, le degré, le pourcentage sur l'un et l'autre diffère. Mais on a tous besoin quand même d'une partie en collectif. Je pense que, bon, après, c'est vrai que tout dépend des personnalités de chacun.
Et là-dessus, c'est vrai que le travail en collectif est très enrichissant par le fait qu'on confronte son écriture aux autres auteurs, à la fois en les relisant, à la fois en étant relu, en échangeant sur les nouvelles, en échangeant sur le wiki. Ce travail collectif enrichit tout ce que l'on peut faire par ailleurs. J'aurais tendance à le voir comme un tremplin, j'aurais tendance à le voir comme quelque chose qui va aider l'auteur en devenir à se réaliser dans le projet et hors du projet. C'est ce que disait Sylvie tout à l'heure sur l'investissement que l'on met dans le projet et le retour que l'on en a. C'est un démultiplicateur d'énergie.
Alors votre collectif, il a quand même une dimension que d'autres collectifs qui ont discuté ici n'ont pas. Quand on entend par exemple le groupe Crucifix, il s'agit d'un collectif d'auteurs qui pratique entre la bêta-lecture et l'échange, mais entre créatifs qui ont un petit peu la même manière de s'exprimer. Et vous, votre collectif, il est très original parce que justement, il y a des auteurs, des illustrateurs, des meneurs de jeu, c'est vraiment des modes d'expression très différents, et j'aimerais savoir si le mode de collaboration que vous avez entre vous, est-ce que c'est les auteurs qui travaillent ensemble sur les textes et puis les gens qui réfléchissent plutôt à l'aspect graphique qui travaillent ensemble, ou est-ce qu'au contraire vous préférez avoir des échanges entre vous sur le principe de gens qui n'ont pas la même approche et qui s'expriment de manière différente? Qu'est-ce qui est le plus enrichissant?
Le plus enrichissant, en fait, c'est l'échange entre les différentes compétences de chacun, parce que chacun donne son avis, même si, par exemple, je suis sur un photographiste qui a fait un dessin, un auteur donnera un avis par sa perception, la différence de perception permettra de donner une sensibilité différente, en fait, sur le dessin. Donc, ça permet, en fait, d'enrichir, d'avoir les commentaires auxquels les photographes entre eux ne penseront pas. Et en fait, les échanges se font entre les différents profils. C'est en fait en général le plus simple et ça permet justement le plus d'échanges.
Par exemple, on est en train de fabriquer une vidéo pour présenter l'univers de manière simplifiée, et on a trouvé parmi les élèves de l'école des arts digitales qui participent à l'élaboration d'éditeurs de cartes interstellaires en termes de game design. Parmi ces personnes, j'ai trouvé un musicien. Et donc, comme j'avais besoin d'une bande-son pour la vidéo, j'ai eu possibilité de travailler avec cette personne pour avoir une bande-son que j'aurais pas pu produire moi-même. Donc, c'est cet enrichissement des différentes facettes de la créativité qui nous porte, en fait.
Et c'est vrai qu'en fait, lors de conventions comme celle-ci, et même en dehors du forum, on arrive en fait à pouvoir avoir des avis d'autres personnes ou de personnes que l'on ne se croirait pas forcément dans la vie professionnelle selon la vie.
Et racontez-nous un peu concrètement, qu'est-ce que vous présentez sur votre stand, qu'est-ce que vous avez comme réalisation, comme objet. On a parlé de recueil de nouvelles, vous en avez combien? J'ai vu des jeux de plateau, alors il y a quoi?
Alors on va parler des trois recueils de nouvelles, une centaine de nouvelles en tout, écrites par une dizaine d'auteurs, en fait 10 auteurs très exactement d'ailleurs. Qui présente comme un kaléidoscope cet univers, chaque auteur donc prenant un endroit, prenant des personnages, prenant tel ou tel aspect pour le mettre en valeur. On a également des cartes postales qui ont été faites à partir des illustrations des illustrateurs du projet. Également nos prototypes justement de jeux de plateau dont on vous a raconté l'histoire tout à l'heure sur une très belle idée de refaire fonctionner des adolescents en difficulté en mode coopératif, les accrocher sur un univers qui pouvait les intéresser et leur concocter un jeu qui allait les remettre doucement en mode coopératif. Et également le jeu de rôle que l'on est en train de réaliser. Alors on le présente, on peut le faire jouer sous forme de scénario d'initiation, de présentation, et on le travaille actuellement de façon à pouvoir l'éditer en version papier.
Et il y a toujours de la place pour des personnes qui s'intéressent par exemple au jeu de rôle, puisque c'est le projet qui est en train d'avancer en coulisses, pour s'intéresser à cet univers et participer à la rédaction du background du fond commun de l'univers dans l'élaboration du jeu de rôle, du livre de base. Et puis il y a beaucoup de possibilités d'interagir avec cet univers, de s'en emparer et de... Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps, parce que si j'avais dû recréer tout un univers avant de commencer à écrire dans le monde du space opéra, j'y serais encore. Et là, je bénéficie des avancées qui ont été faites depuis l'époque du jeu de rôle à Central Lyon, où moi, je n'étais même pas née. Et donc, on contribue à notre échelle, chacun, selon l'envie qu'on a.
On va peut-être demander à la foule qui se presse devant vous si vous avez des questions à poser à l'équipe, au collectif Oshidadze. Ils ont une démarche très originale, collective, variée, multiple, et surtout qui dure depuis un temps remarquable, parce qu'il y a beaucoup de collectifs récents, mais un collectif qui tourne, même si ce n'est pas toujours avec les mêmes gens depuis plus de 20 ans, c'est quand même une expérience assez rare. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions à leur poser pendant qu'ils sont tous là devant vous? Oh non, je vais passer le micro au jeune Jean-Claude Dugnac pour qu'il soit sur...
Merci. C'est une question qui peut-être déjà été répondue parce que malheureusement j'étais à une autre table ronde depuis le début. Mais
comment fonctionne, je dirais, le rôle d'architecte industriel, je dirais, par rapport à un site comme celui-là, c'est-à-dire celui qui est, je dirais, le garant des arbitants du projet. Voilà, c'est toi, tu es le grand architecte industriel.
Pour l'instant, effectivement, je dirais de facto, il se trouve que c'est moi, puisque à un moment donné, j'ai été le dernier survivant de l'équipe d'origine.
Oui, donc c'est ça, l'équipe élimine au fur et à mesure les gens, c'est effectivement. Eh bien, ça donne envie.
Sachant que on était des élèves ingénieurs, on s'est dispersé un peu aux quatre vents et petit à petit les contributions sur le projet, je dirais, on a commencé à reconstruire une nouvelle équipe qui venait de rencontres dans les conventions, qui venait de discussions sur Internet, au fur et à mesure que l'équipe d'origine s'est étiolée. Et après, il y a eu diverses... je dirais, le projet a eu plusieurs souffles, effectivement, comme dirait Sylvie. Le mot est très juste parce que à un certain moment, on a manqué de souffle, il y avait beaucoup de créativité, mais on allait nulle part, on faisait du mouvement brownien, on ne bougeait pas, et il n'y avait pas de direction, et c'est là qu'on a pris la décision de créer l'association. Donc justement, pour avoir une direction, pour savoir où on allait. Et depuis, le projet a pris beaucoup plus d'ampleur.
Ben c'est bien, ça va me permettre de demander à Lisan, qui nous en a finalement assez peu parlé, ce que ça change de créer une association. Est-ce que tu nous as dit que ça permettait d'aller à des festivals, d'être représenté de manière un peu officielle en tant que collectif, mais en gros, ça sert à quoi quand même d'être une association? Moi, j'ai du mal à comprendre en quoi ça aide à avoir une ligne directrice et à ne pas faire du mouvement brownien où tout le monde s'agite sans aller nulle part.
En fait, ça nous donne une sorte de cadre qui permet en fait de pouvoir suivre des lignes un peu plus directrices plutôt que de partir entre guillemets dans tous les sens comme les oursins. On voit les oursins avec des petites épines. Non, là, en fait, ça permet d'aller vraiment dans les directions principales et avoir un axe pour augmenter le projet sur certains médias. Et après, lorsqu'on aura atteint, par exemple, avec l'éditeur stellaire, on atteindra le jeu vidéo. Et par exemple, avec le jeu vidéo, on peut arriver en fait, de là à déboucher sur des dessins animés ou sur d'autres moyens qui donneront en fait, accès à d'autres moyens encore.
C'est-à-dire que l'idée, ça a été créer une association. Effectivement, ça nous donne un cadre. Et ça, quelque part, la manière de raisonner n'est plus tout à fait la même. On se dit, on a créé quelque chose, on en est responsable, et qu'est-ce qu'on va en faire? Et on se dit, il faut aller quelque part. Après, il faut choisir le quelque part, il faut en discuter, il faut arriver à l'animer et à faire en sorte qu'on choisisse un quelque part où tout le monde veut y aller. Mais déjà, ça donne ce cadre, cette motivation pour choisir un quelque part, une destination.
Il ne faut pas oublier aussi que, bon, je ne sais pas par rapport aux créatifs, mais pour les créatifs en général, certains partent, ont besoin d'être encadrés et on a besoin de gestion et d'organisation. Est donné par l'association aussi, plutôt que, bon, par exemple, tout artiste...
Il faut recadrer les créatifs, ça paraît absolument nécessaire.
Je pense que tout artiste, que ce soit un auteur, un dessinateur, j'ai déjà vu, pour l'avoir fait moi-même, me réveiller la nuit, écrire un texte à n'importe quelle heure de la nuit, et puis après me coucher, et puis... Donc, il faut quand même aussi mettre des lignes
directrices, sinon on n'arrive même pas à survivre dans le monde actuel. Toujours pareil, j'ai manqué le début, donc je pose certainement des questions idiotes, mais il y a une question d'être garant de l'horizon commun, si je puis dire. Et ça, cette notion d'horizon commun, c'est quelque chose, je comprends très bien qu'on ait besoin d'une association, parce que ça se traduit par des statuts, ça se traduit par quelque chose qui est, disons, suffisamment écrit ou suffisamment matérialisé pour qu'on puisse s'y référer. et donc des éléments de référence, qui ne sont pas des éléments contraignants, qui sont simplement des directions. Et être capable d'assumer à un moment donné qu'une direction existe, avec un porteur de projet, un architecte, quelqu'un qui est le garant de l'horizon, ben, c'est quand même absolument fondamental. Le fait que vous ayez réussi à le faire ces 20 ans, c'est déjà une chose assez extraordinaire.
En fait, nous partageons assez régulièrement la coordination de tout ce qui se réalise, que ce soit en fait pour les nouvelles, pour les relectures, ou alors, par exemple, quand on est une élève, sur un dépôt on va mettre un carte postale ou un poster, à ce moment-là, on intervient à différents plans, on est en général deux, moi et moi, à réagir régulièrement pour la coordination du projet.
Il y a aussi autre chose, c'est que pour quelqu'un qui est créatif, souvent on a tellement d'idées qu'on ne sait pas sur quoi se focaliser. Là, quand je règle ma cotisation à l'association, j'ai un engagement. C'est-à-dire que l'argent que des fois on décrit un peu dans notre société, c'est aussi un moyen de solidifier un engagement. Et après, cet investissement, je vais le poursuivre et je vais revenir parce que j'ai commencé et je garde cette ligne. Et quand je soutiens ce projet, je me dis, bon, je réserve du temps pour ce projet, c'est un choix que je fais d'emblée.
Moi, je suis très admirative de la maturité avec laquelle vous abordez un projet aussi ambitieux et aussi complexe, et de la conscience que vous avez de la diversité des compétences nécessaires, ce qui est quand même une extraordinaire manière de faire marcher un collectif complexe. On n'a plus beaucoup de temps, je vais te laisser peut-être le mot de la fin et puis après j'inviterai tout le monde à venir explorer sur votre stand. Mais puis, je crois qu'il est temps, que tu nous dises un petit mot pour terminer sur la présentation, l'ébauche de présentation de ce projet.
Oui, parce qu'il y a énormément de choses encore à en dire. On a fait qu'effleurer la surface, mais de toute façon, ce projet, il se développe petit à petit, se développe par étapes. On essaye d'assurer chaque étape avant de passer à la suivante. Et j'aurais tendance à dire, revenez nous voir pour voir au fur et à mesure les étapes suivantes.
Ou
participer, effectivement, bien sûr.
Alors pour retrouver Shidazé, donc ils sont dans la salle à côté, vers le fond, vers la gauche, vous les trouverez. Et profitez d'aller les voir avec leur production matérielle et en tant qu'être humain concret pendant qu'ils sont là. Mais sinon, allez les voir aussi sur leur site. Je vous assure que la visite est passionnante et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, merci à vous tous et belle poursuite pour dans les 30 années qui viennent au moins.
Merci.